Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Gate Kakawe, c'est le moment du journal en français dont voici d'abord la charpente. L'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi a été condamné hier par la cour d'appel d'Ngozi à une année de prison avec sursis de 6 mois. Césarie Nidzigimana est accusé de non-assistance à personne en danger dans l'assassinat d'un vieillard le 4 septembre dernier. Et puis les militaires en mission de maintien de la paix en Somalie sont mécontents. Ils réclament plus de 7 mois d'arriérés d'indemnité. Enfin, l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Farsem demande à la réhabilitation des institutions de lutte contre la corruption. L'organisation déplore l'inaction du gouvernement en place dans la lutte contre ce fléau. Voilà pour les principaux titres de ce journal. Joséphine Johnson-Mondemana est avec vous à la présentation. Madame, messieurs, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parlons santé pour commencer ce journal. Qui pour sauver les Burundais du Covid-19? Ce qui est évident, c'est que la population ne peut pas compter aujourd'hui sur les autorités burundaises qui ne veulent même pas donner un bon exemple en se faisant vacciner. C'est l'objet de l'éditorial de la rédaction de la radio Nzamba Gate Kakawe. Il est lu par Franck Kaze.
Le pouvoir burundais excelle de plus belle dans la démonstration qu'il se fout du bien-être de la population. La négligence des autorités face au Covid-19 en est la preuve, au moment où tous les autres pays du monde continuent de renforcer les mesures pour endiguer la pandémie. Ce refus de protéger les Burundais a été affiché depuis l'apparition de la pandémie, une attitude qui se poursuit, ou plutôt s'empire aujourd'hui, alors que la communauté internationale est en train de distribuer les vaccins et que, d'ailleurs, même le Burundi vient de recevoir ses premières doses offertes par la Chine. Partout dans le monde, à commencer par les pays les plus riches, les chefs d'État ont donné l'exemple en se faisant vacciner en premier, et cela s'est répercuté ailleurs, jusqu'en Afrique. Dans le voisinage le plus direct du Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, les chefs d'État ont donné le la en prenant publiquement leur dose afin de motiver leur peuple, ce qui est loin d'être le cas au Burundi. Au Burundi, ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement a accepté de recevoir les vaccins, mais aucune autorité ne s'est encore fait vacciner alors que la vaccination a été officiellement lancée il y a près de 2 semaines, ce qui prouve qu'ils font une chose et son contraire. Les autorités se seraient-elles fait vacciner en cachette? C'est très probable. Rien que l'exemple du chef de l'État, certains des nombreux voyages qu'il effectue le mènent dans des pays où l'entrée est conditionnée par le fait d'avoir été vacciné, quel que soit le statut du voyageur, comme le cas des États-Unis, où il a participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU. Ce qui est encore plus étonnant et plus dommageable, à peine le comité en charge de la riposte contre le Covid-19 a annoncé l'arrivée imminente des vaccins, que le Premier ministre en personne, Alain Guillaume Bognoni, a publiquement affirmé que les vaccins n'ont pas subi suffisamment d'études et que ceux qui se font vacciner tombent par la suite malades et qu'ils en meurent même. Le message d'Alain Guillaume Bognoni était clair. Il invitait les Burundais à ne pas se faire vacciner. Mais le discours d'Alain Guillaume Bognoni est venu en renfort à d'autres propos, notamment ceux des ministres de la Santé et de l'Intérieur, qui sont également, et c'est là où le bât blesse, responsables du comité en charge de la riposte contre le Covid-19. Lors de la toute première annonce de l'arrivée des vaccins, les deux hommes avaient averti les Burundais que le gouvernement ne serait pas tenu responsable des conséquences des vaccins sur les personnes vaccinées. Étant donné la terreur exercée par le pouvoir, ceux qui oseraient se faire vacciner prendraient alors le risque d'être persécutés, voire tués, pour avoir agi en contradiction avec la position des autorités, comme c'est souvent le cas depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir. Ils pourraient donc être considérés comme des traîtres, des ennemis de l'État. Rien d'étonnant qu'aujourd'hui, la peur de la population de se faire vacciner se traduise donc par des statistiques extrêmement basses, avec une moyenne à peine d'une centaine de personnes vaccinées par semaine, la plupart étant d'ailleurs ceux qui se préparent pour voyager. La preuve, s'il en faut, que les autorités burundaises, à commencer par le président Évariste Ndayishimiye, ne se soucient aucunement de ceux qu'ils gouvernent. Les Burundais ont intérêt à prendre conscience du danger qui les guette et à surpasser la peur qui les tiraille et se faire vacciner, car à l'heure actuelle, c'est le moyen le plus efficace de se protéger contre le Covid-19. Dans le cas contraire, le pays finira par être la paria et isolée du monde, et il sera alors trop tard quand le pauvre citoyen lambda dira « Si j'avais su ».
Pourquoi faut-il se faire vacciner ? La vaccination contre la Covid-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Et dans le domaine de la justice, condamnation ce jeudi de l'administrateur de la commune Nyamurenza à une année de prison avec sursis de 6 mois et 2 millions de francs burundais de dommages et intérêts. Césarie Nizigiman a été poursuivi dans le dossier de l'assassinat de Claver Ndaigaya, un vieillard de 66 ans, exécuté extrajudiciairement le 4 septembre dernier après sa sortie du cachot de Nyamurenza sur autorisation de cet administrateur communal. Certains de ses co-accusés ont écopé d'une peine de prison à perpétuité. Les détails avec Prosper Ndissavila.
Sur le mandat d'arrêt émis par le procureur en date du 1er octobre dernier, Césarine Nizigimana était accusé d'assassinat de ce sexagénaire tué un mois auparavant sur la colline Mushonge de la commune Nyamurenza, avant d'être brûlé vif et enterré sans la présence de sa famille biologique. La victime était soupçonnée de pratiquer des actes de sorcellerie. Il avait été brièvement relâché alors qu'il était dans les mains de la police et l'administration. Quelques heures plus tard, ce sont quelques jeunes Imbonerakure de Nyamurenza qui ont fini par lyncher cet homme. Poursuivi aussi dans cette affaire, l'administrateur communal et six de ses co-accusés, dont certains chefs collinaires, étaient accusés de complicité dans l'assassinat de cet homme de 66 ans. La cour d'appel d'Ngozi, qui a rendu ce procès, a requalifié l'infraction et a retenu à l'administrateur de Nyamurenza de non-assistance à personne en danger. D'autres parmi ces co-accusés ont écopé une peine de prison à perpétuité. Le procès a été rendu à huis clos. Césarine Nizigimana est donc sortie de la prison pour femme d'Ngozi depuis ce jeudi. Elle va toujours occuper son poste d'administrateur de Nyamurenza, au grand dam de certains habitants de cette commune.
Cette condamnation de l'administrateur de Nyamurenza est assimilable à un acquittement, déplore Maître Vital Chimilimana. Cet homme de loi trouve que Césarine Nizigimana devrait être poursuivi comme co-auteur du crime. Pour Vital, cette condamnation prouve à suffisance le manque d'indépendance de la magistrature. Suivez-le.
On voit que l'administrateur communal a joué un rôle prépondérant pour l'exécution de cette sale besogne. Ni peut-être l'intervention de l'administrateur communal, peut-être que les choses auraient tourné autrement. Or, l'administrateur communal, par sa présence, par sa force légale, par sa force physique, accompagnée par des forces de l'ordre, ou aidé en cela par des administratifs à la base, pouvait empêcher qu'un tel crime soit commis s'il n'était pas personnellement impliqué. Qu'elle soit auteur intellectuel ou d'ailleurs en raison de sa participation directe dans l'émission des ordres à l'égard des bourreaux, cet administrateur communal doit être poursuivi pour complicité. D'ailleurs, il devrait être poursuivi comme co-auteur de son crime en raison de sa participation, mais aussi de sa puissance légale que lui confère la loi en raison des responsabilités qui lui sont attribuées. Au cas contraire, nous dirions que la condamnation pour une petite période est une condamnation civile et de réparation civile, ceci est assimilable à un acquittement. Ceci est étonnant, mais ce n'est pas surprenant compte tenu du manque d'indépendance dont les magistrats sont régulièrement accusés. Nous pensons qu'il est du devoir du procureur de la République en province d'Ngozi d'interjeter appel pour requérir l'application de la loi, auquel cas l'administrateur communal de Nyamurenza sera poursuivi et condamné conformément à la loi. Faute de quoi, tout le monde continuera à crier à l'injustice, à crier au manque d'indépendance, à crier au traitement de faveur à l'égard de certaines autorités politiques ou administratives qui commettent des crimes abominables envers les citoyens.
Justice, c'est également un certain Juvin Ndabahinyuye qui a été libéré ce jeudi par le parquet de la province de Lomongue après avoir passé plus d'un mois dans la prison de Murembwe en zone Gatete. Il avait été arrêté et poursuivi à la place de son fils qui avait fui le pays et accusé d'appartenir dans des groupes armés. Le point avec Parfait Mudasigana.
La mesure qui accorde la liberté provisoire à ce vieillard a été prise ce 27 octobre par le procureur de la République en province de Lomongue. Juvin Ndabahinyuye a été arrêté le 24 septembre par la police à son domicile situé sur la colline d'Ogishiha en zone Maranvia de la commune Burambi en province de Lomongue. Le lendemain, ses trois fils, dont Emmanuel Mugenzi, Jean-Claude Tuyubare, ont été appréhendés dans la capitale économique Bujumbura. Parmi ses fils appréhendés figure un policier du nom d'Enoch Nduimana, encore en fonction, affecté au commissariat de la police à Buterere. Les interpellés ont été arrêtés et poursuivis dans un dossier d'un autre fils de Juvin Ndabahinyuye qui a fui le pays depuis 2016. Les autorités administratives de la commune Burambi lui avaient reproché d'appartenir dans des groupes armés et d'avoir participé dans l'assassinat de l'ancien chef de colline Gishiha du nom d'Antoine Lucheke commis en décembre 2020. Toutefois, les proches de cette famille trouvent cela une forme de persécution et d'injustice. Les informations en provenance des proches de la famille indiquent également que ces trois fils ont comparu ce vendredi devant le parquet à mairie de Bujumbura.
Merci bien, Parfait Mudasigana, pour tous ces détails. Dans quelques instants, la suite de cette édition.
Inzamba.
Les militaires du contingent burundais dans la mission de maintien de la paix en Somalie réclament les arriérés des indemnités de plus de 7 mois. Ils demandent au commandement de la MISOM d'exiger au gouvernement burundais le décaissement de leurs dus. Ces militaires s'inquiètent que la mission de la MISOM va bientôt prendre fin alors que les militaires des autres pays contributeurs dans cette mission reçoivent leurs indemnités régulièrement et en bonne et due forme. Plus de détails avec Blaise Nijimbere.
Les militaires des 57e, 58e et 59e bataillons AMISOM qui ont été déployés en Somalie au mois de novembre de l'année passée 2020 réclament les arriérés de plus de 7 mois des indemnités AMISOM. Ceux des 60e et 61e bataillons AMISOM réclament plus de 5 mois d'arriérés, tandis que ceux du 55e et 56e bataillons AMISOM qui ont été relevés au mois de mai dernier réclament plus d'un mois des indemnités AMISOM. Pendant bientôt une année qu'ils viennent de passer en Somalie, ils indiquent avoir déjà reçu seulement 4 mois et quelques jours de leurs indemnités. Ils disent qu'ils ont relevé la question à leur hiérarchie militaire, mais que la réponse que ces derniers leur donnent n'est pas du tout satisfaisante.
Depuis cette date d'acquisition des indemnités à Missoum de 4 mois et quelques jours, nous avons attendu pour le reste. Ça fait bientôt une année. Quand nous demandons à la hiérarchie, ils nous indiquent que les fonds sont disponibles, mais qu'il n'y a pas encore une autorisation de décaissement pour virer nos indemnités sur nos comptes individuels respectifs. L'argent déposé à la banque génère des intérêts. Nous pensons que ce sont les autorités de l'armée qui en tirent bénéfice. Nous sommes vraiment inquiets par cette attitude.
Les militaires burundais du contingent AMISOM sont inquiets que leurs indemnités seraient utilisées pour d'autres fins par leur hiérarchie. Ils demandent au commandement de la MISOM d'exiger aux autorités du Burundi le décaissement des arriérés de les indemnités.
Les réponses qu'ils nous donnent ne sont pas tranquillisantes alors que nous sommes au service de la nation. Il se pourrait qu'ils aient des compromis avec les banques que nous ignorons. Si ce n'est pas le cas, rien ne justifiera pourquoi l'argent peut passer une si longue période sur les comptes sans donner l'autorisation de retrait aux bénéficiaires. C'est vraiment inquiétant.
Nous demandons à la hiérarchie des forces armées de la MISOM d'exiger au gouvernement burundais le décaissement de nos indemnités.
L'autre inquiétude de ces militaires est la fin du mandat de la MISOM avec décembre prochain. Il est prévu le relevé de la MISOM par la mission de stabilisation multidimensionnelle UA-ONU en Somalie, déployée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil africain de paix et de sécurité a adopté une proposition visant à déployer une force conjointe UA-ONU pour remplacer la MISOM d'ici la fin de cette année au début de ce mois d'octobre. Les discussions sont toujours en cours pour éviter toute faille de sécurité pendant la transition. La rédaction de la radio Inza Mbagatia Kawe a tenté de joindre par téléphone le général de brigade Telesphore Barandereka, commandant du contingent burundais de la MISOM, ainsi que le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour pouvoir apporter des éclaircissements sur ces grognes des militaires du contingent burundais de la MISOM sans succès.
Dans le secteur de la bonne gouvernance, depuis que le président Évariste Ndayishimiye s'est lancé dans la lutte contre la corruption des malversations économiques, des cas de corruption ont été relevés, mais rien ne suit. C'est ce qu'a déclaré Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, dans une conférence de presse animée ce vendredi. Pour lui, il faudrait réhabiliter les institutions de lutte contre ce fléau afin qu'ils puissent saisir des cas pour établir les responsabilités. Écoutez Faustin Dikoumana.
Nous voyons que si on ne prend pas garde et la lutte contre la corruption, le procès risque de reculer au lieu d'avance. Parce qu'il y a des dossiers qui ont déjà éclaté au grand public, au vieux site de tout le monde, au ministère des Finances, au ministère du Commerce, même le ministre a été limogé, il y a le barrage de Kajeke, il y a le barrage de Mpanda, très récemment, il y a l'affaire Guiheta, il y a un rapport sur la commission sur le comportement des cadres et au moment de la fin de la législature, il y a la déclaration des biens qui n'a pas encore été réalisée, qui est toujours mise en veilleuse. Et on se dit, alors, quel est ici de tous ces dossiers? Normalement, il devait y avoir des institutions qui agissent avec un professionnalisme pour faire des enquêtes et rétablir les responsabilités. Même la justice devait commencer à faire son travail. Il y a des institutions comme les services généraux de l'État, il y a la Cour des comptes. Le cas de Chemin de l'Ombudsman a continué de faire des investigations sur ces cas. Il y a les commissions parlementaires. Et maintenant, il n'y a plus de brigades spéciales de lutte contre la corruption pour commencer à faire des enquêtes. Et ce sont les parquets ordinaires qui doivent se saisir de ces cas. Maintenant, il y a vraiment un élément du système de lutte contre la corruption qui manque. Il faut qu'il soit redynamisé. Maintenant, de la chaîne qui doit être redynamisée. Sinon, il serait difficile de combattre la corruption dans ces conditions. On risquera même de reculer. Et il faut prendre des sanctions pénales à l'endroit des gens qui seront coupables de ces actes, des sanctions administratives et pénales. Et il ne faut pas voir des cas où des gens sont accusés publiquement et après on voit leur promotion. Et c'est pour cela que nous lançons en vivant. On va appeler au gouvernement de rectifier le tir. De rectifier le tir pour que cette lutte puisse enregistrer des pas de géants.
Cap sur la province de Kayanza où les habitants de la commune de Kayanza s'insurgent contre le travail fait par certains techniciens agricoles. Ces habitants disent que les techniciens agricoles ont tardé à leur fournir des fertilisants organominéraux. Ils disent avoir déjà payé la totalité de l'argent destiné à l'achat de ces fertilisants. Plusieurs d'entre eux s'étaient présentés dans la matinée de ce vendredi pour recevoir ces fertilisants, mais certains sont rentrés les mains vides. Les détails avec Vanessa Mouiteka.
Ces voix sont celles des agriculteurs qui s'étaient massivement présentés dans les enceintes du bâtiment d'entreposage des produits fourmis. Ils indiquent qu'ils espèrent retourner chez eux après avoir aperçu tous les fertilisants commandés. Mais fort curieusement, parmi les trois sortes de fertilisants attendus, il y avait le fourmi Totaza dont la quantité est restée insuffisante alors que c'est le moment de son usage en cette période de sarclage. Ces agriculteurs ont fait savoir que peu de personnes ont été servies et même celui qui avait déposé une commande de 10 sacs n'en recevait qu'un seul.
On a commencé à décharger ces fertilisants hier soir et nous ont donné rendez-vous aujourd'hui. Certains parmi nous se sont présentés ici à 2h du matin. Depuis le début de cette saison, nous nous sommes précipités à semer, croyant que nous aurons ces fertilisants à temps. Et puis, les champs de maïs arrivent presque dans la période de récolte. Ils veulent que nos enfants meurent de faim. Nous voulons la justice dans cette affaire parce qu'on a payé à temps les frais destinés à acheter ces fertilisants. Il faut qu'ils promettent des choses qu'ils vont honorer.
À cet effet, ces cultivateurs craignent que la récolte en cette saison culturelle A ne soit mauvaise par rapport à celle attendue. Ils demandent alors au service en charge de l'agriculture de sortir du silence et dire là où se situe le nœud du problème, sinon que l'argent payé leur sort est situé une fois que des engagements ne sont pas honorés.
C'est presque la période de la récolte. Nous entendons que les fertilisants ont été envoyés, mais nous ne voyons pas de résultats. Nous demandons que l'argent utilisé pour l'achat nous soit restitué pour que nos champs ne soient abîmés.
La rédaction de la radio Inzamba a appelé sans succès Nyan Sava Adela, directeur du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza.
Et dans la province de Makamba, on signale une pénurie du carburant dans les différentes stations-service de la province depuis 3 mois. Cela a entraîné des conséquences néfastes sur la vie de la population. Les prix du ticket de transport et de certains produits de première nécessité ont été revus à la hausse. Les détails dans ce reportage avec Josine Kadze.
Selon des informations concordantes recueillies par la radio Inzamba au sein de la population de Makamba, les propriétaires des véhicules et motos principalement sont obligés de se déplacer sur de longues distances à la recherche de ce produit devenu très rare. Quelquefois, ils retournent sans s'en approvisionner. Les consommateurs du carburant, pour la plupart les véhicules de transport, taxis motards, les propriétaires des moulins, les usagers des bateaux de pêche à moteur achètent que ce soit le litre d'essence ou mazout à un prix variant entre 7 et 8 000 francs le litre. Cela a entraîné la hausse du ticket de transport qui a passé du simple au double. Cette hausse a entraîné la paralysie des activités dans différents services tant publics que privés. Ce n'est pas tous les prix des produits de consommation qui ont grimpé d'une façon exponentielle. En kilo de manioc qu'on pouvait moudre à 100 francs est pour le moment fixé à 400 francs, confirment nos sources. Ce qui est choquant pour les consommateurs, l'administration et la police ont interdit la vente du carburant sur le marché noir. En plus de cela, les stations-services ont reçu l'ordre de ne pas servir le carburant en bidon. Cette mesure frappe les propriétaires des moulins, bateaux de pêche ainsi que les services qui utilisent les groupes électrogènes. Les utilisateurs de ce produit demandent à l'autorité de laisser les vendeurs de carburant s'en approvisionner en Tanzanie voisin pour pallier à ce problème.
Merci Josine Kadze, et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.